Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
On n'en est plus à l'attente de la fumée blanche car elle a déjà percé l'atmosphère au Vatican. Le nom du nouveau pape est attendu dans quelques instants. Les 133 cardinaux ont enfin élu le successeur du pape François cet après-midi. En ce moment précis, la place Saint-Pierre est bondée du monde pour attendre Habemus Papa et enfin voir apparaître le nouveau souverain pontife et le dispositif cérémonial est déjà en place. Ça continue à jaser entre la présidence de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle. Matata doit-il continuer à comparaître dans l'affaire Bukanga Lonzo? Caméré campe dans sa position comme vous le suivrez dans ce journal. Les immunités du député doivent nécessairement d'abord être levées. En tout cas, les jours à venir vous en diront plus. Nous parlons prévention des maladies gynécologiques, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, avec notre invité, Dr Modia Owanjo. Il est gynécologue et insiste sur la prévention et sensibilisation au dépistage de toutes ces maladies chez la femme. Restez donc avec nous pour en apprendre davantage sur tous ces titres et bien d'autres faits d'actualité du pays. Le tout, c'est sur Radio Okapi, votre source d'actualité des choix. Merci de votre confiance. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Habemus Papa, le 267e pape de l'Église catholique, vient d'être élu par les cardinaux réunis au Vatican depuis ce mercredi. Son identité sera dévoilée dans quelques instants. C'est lui qui prendra la succession du pape François, mort le 21 avril dernier. Il va faire son apparition à la Loggia et va prononcer ses premiers mots et sa bénédiction Urbi et Orbi. De la fumée blanche s'est en effet échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine où sont réunis en conclave les cardinaux. Cette fumée blanche a été accueillie par les vives acclamations et les applaudissements des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, tandis que les cloches de la basilique Saint-Pierre sont sonnées à toute volée. Je vous l'ai dit dans les titres, rebondissement dans l'affaire Bukanga Lonzo, le président de l'Assemblée nationale persiste et signe. Augustin Matata Ponyo est député national et ne devrait pas être jugé sans que ses immunités ne soient levées. Au cours de la plénière d'hier mercredi, Vital Kamerhe s'est demandé en quelle qualité le président de la Cour constitutionnelle peut se permettre d'interpréter la loi, car selon lui, Dieudonné Kamouleta n'est pas la Cour constitutionnelle. Évoquant d'autres jurisprudences comme celle du sénateur Salomon Kalonda, Vital Kamerhe craint que la condamnation de Matata Ponyo en violation de la Constitution, crée un antécédent de l'arbitraire. Michel Kifindangoy.
Réagissant à la lettre lui adressée par le président de la Cour constitutionnelle, Vital Kamerhe réaffirme la position de la plénière de l'Assemblée nationale s'opposant au jugement de Matata en violation de l'article 107 de la Constitution. Vital Kamerhe.
Votre président a écrit à la Cour constitutionnelle non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, d'abord j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle.
Pour soutenir cette position, le président de la Chambre basse du Parlement évoque la jurisprudence Salomon Kalonda et Donald Trump aux États-Unis.
Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Iskandela quand il est devenu sénateur. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur les candidats Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais il est passé président, maintenant c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça vraiment?
Vital Kamerhe craint que cette procédure irrégulière engagée contre Matata rattrape tout autre dirigeant dans les jours à venir.
Notez qu'avant cette mise au point de Vital Kamerhe, le député Daniel Asselo d'Élu d'Épès a affirmé qu'il n'appartenait pas à l'Assemblée nationale, encore moins à son président d'interpréter la loi. Position contredite par d'autres députés qui estiment que Vital Kamerhe est dans ses prérogatives de protéger les droits et la sécurité des députés conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Justice, reprise du procès du meurtre de Fiston Kabeya, ancien policier, déroulage ce jeudi devant la cour militaire de Kinshasa Gombe au camp Lufungula. À cette audience, la cour a examiné le rapport médical des médecins légistes qui étaient chargés de faire l'autopsie. Il ressort de ce rapport que Kabeya est mort à la suite d'un traumatisme crânien causé par des coups qu'il aurait reçus de la part des policiers de l'équipe d'escorte de la première ministre le 25 mars lors d'une altercation sur l'avenue Colonel Mondiba en face du supermarché GG Mart. Rappelons qu'à l'audience,
l'audience précédente du 14 avril, la Cour avait confronté les prévenus au ministère public sur l'infraction présumée des coups et blessures volontaires contre la victime. Elle en renvoie l'audience à lundi prochain pour plaidoirie et réquisitoire. De la politique à présent. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD annonce la reprise effective de ses activités depuis le 6 mai. Suspendu pour 15 jours par le vice-premier ministre de l'Intérieur depuis le 19 avril dernier, pour notamment l'implication présumée du président national de ce parti d'opposition, Joseph Kabila, dans la rébellion du M23FC dans l'Est. Le bureau politique du PPRD affirme que cette décision de suspension est levée d'office conformément à l'article 29 de la loi sur les partis politiques. Ce délai ayant expiré le 6 mai, le bureau politique constate que rien n'a été fait pour prouver auprès d'un tribunal les accusations portées contre le parti et son président. S'agit-il d'une décision unilatérale ou d'un bras de fer avec le ministre de l'Intérieur? Le secrétaire permanent adjoint du parti, Maître Ferdinand Kambere, explique la décision de son parti à Jeff Ngoy.
S'il y a quelqu'un qui avait l'idée qu'on prolonge les 15 jours, il fallait le faire dans les 15 jours-là, parce que la loi dit que ça doit être sans délai. Il fallait déjà saisir le parquet, près le tribunal compétent, TGI, et il fallait très rapidement que ce procureur instruise le dossier. Il ne l'a jamais fait, et qu'en instruisant, s'il trouve que les éléments annoncés par le ministre étaient vérifiés, il devait saisir les juges. La décision de prorogation de ces 15 jours ne peut venir que du juge compétent saisi. Et les documents qui circule dans les réseaux sociaux, j'espère que ce n'est pas le ministre qui fait circuler ça, une requête tendant à obtenir dissolution, mais c'est en vertu de quelle loi, lui, le ministre peut agir comme ça? Est-ce que lui doit faire une requête ou il devait simplement déposer sa plainte auprès du ministère public? Ceux qui nous ont accusés faussement, ils ont été incapables de constituer un seul dossier. Donc, il n'y a pas de bras de fer, nous reprenons et même ceux qui ont squatté notre siège doivent déjà laisser libre les sièges d'un parti de l'opposition.
Nous allons nous rendre dans la province de l'Ituri. 6 mai 2021, 6 mai 2025, cela fait 4 ans que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri vivent sous état de siège. À l'Ituri, les avis restent partagés sur le bilan de ce régime spécial. Le gouvernement provincial de l'Ituri dit avoir réussi à restaurer l'autorité de l'État dans plusieurs localités qui étaient jadis occupées par les groupes armés. Ce qui a permis le retour de nombreux déplacés, notamment dans les territoires d'Irumu et de Mambasa, mais aussi la relance des activités socio-économiques. Un bilan que conteste la société civile de Djougou qui soutient de son côté qu'il n'y a pas eu d'avancée significative depuis l'instauration de ce régime dont l'objectif était d'éradiquer les groupes armés qui continuent à endeuiller ce territoire de la province. Isaac Remoyope pour d'autres détails.
Le gouvernement provincial de l'Ituri s'est dit satisfait des actions réalisées depuis 4 ans dans cette province sous état de siège. Son porte-parole cite notamment la pacification à 80% du territoire d'Irumu, la réduction des violences des groupes armés dans toute la province, la cohabitation pacifique entre les communautés locales jadis en conflit ou encore la libre circulation des personnes et de leurs biens, et d'ajouter que ces efforts se poursuivent pour pacifier totalement la province. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous avons restauré l'autorité de l'État dans plusieurs coins jadis invivables. Les 4 ans de l'état de siège, lentement et sûrement, arrivent à atteindre l'objectif de cette mesure.
Cependant, pour d'autres observateurs, cette mesure exceptionnelle n'a pas atteint son objectif. Les groupes armés occupent toujours plusieurs villages et détiennent encore les armes, ce qui empêche plus d'un million de personnes déplacées disséminées dans plus de 60 sites de retourner dans leurs villages d'origine, notamment dans les territoires de Djougou. Charité Banza, président de la société civile de Baïmanor.
Si une maman rentre encore dans les champs aujourd'hui, elle est violée. S'il y a des gens qui rentrent dans les champs, ils sont tués par la milice Codeco. Alors où est-ce qu'on a pacifié l'Ituri?
Certains acteurs politiques et civils plaident pour la levée pure et simple de cette mesure qui pour eux est un échec. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Un mot de l'économie en rapport avec l'inspection générale des finances qui a un nouveau chef qui remplace Jules Alinguété. Nommé ce mercredi par ordonnance présidentielle, Christophe Bita, 6 mois, devient inspecteur général des finances, chef de service de cette institution stratégique dans le contrôle des finances publiques. Qui est le nouveau patron de l'IGF? Jocelyne Moussao Pondé nous brosse son portrait.
Économiste, professeur d'université et haut cadre de l'administration publique, Christophe Bitassimwa est titulaire d'un doctorat obtenu à l'Université catholique du Congo. Sa thèse, centrée sur les inégalités économiques et la redistribution des revenus et des richesses, propose des approches adaptées au contexte congolais, soulignant déjà son engagement pour une gestion équitable et rigoureuse des ressources nationales. Son parcours professionnel est marqué par une longue expérience au cœur de la machine étatique. Avant sa nomination à la tête de l'IGF, il a occupé les fonctions de secrétaire général au ministère de l'Industrie depuis 2022, après 9 années passées au secrétariat général des Finances. Christophe Bitassimwa hérite d'une gestion méthodique laissée par son prédécesseur, notamment le contrôle a priori et les patrouilles financières, deux outils qui ont redéfini l'efficacité de l'IGF ces dernières années. Ces mécanismes visent à prévenir les dérives, encadrer les dépenses et neutraliser les réseaux de prédation financière. Il est attendu du nouveau patron de l'IGF, l'assainissement de la gouvernance financière et la restauration de la confiance dans la gestion des ressources nationales.
Journée mondiale de la Croix-Rouge, c'est ce jeudi 8 mai. Nous allons nous rendre dans le sud Kivu avec cette question. Comment la Croix-Rouge de cette province fait face aux multiples ramassages des corps sans vie retrouvés presque au quotidien, ça et là dans des coins et recoins de la ville de Bukavu. Cela dans le but de prévenir des maladies qui découlent de la putréfaction des corps abandonnés dans un contexte sécuritaire aussi difficile. Le secrétaire provincial de la Croix-Rouge sud Kivu revient sur cette problématique justement à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Kashinzo Ekibenkenge John est au micro de Radio Okapi.
La Croix-Rouge est auxiliaire de pouvoir public dans le domaine humanitaire. C'est aussi à cause de cela que la Croix-Rouge se met à pied d'œuvre pour essayer d'intervenir aux côtés de pouvoirs publics. Alors, comment nous le faisons? Nous avons ce qu'on appelle l'enterrement digne et sécurisé. La personne, peu importe la manière par laquelle elle est décédée, nous avons l'obligation de l'enterrer dignement. Mais aussi, quand nous parlons de sécuriser, c'est-à-dire on empêche au corps de contaminer la communauté par rapport aux maladies. Donc, on a des volontaires qui sont spécialisés dans ces domaines. On les fait aussi bien dans la ville de Bukavu que dans d'autres territoires où il y a nécessité. Et il n'y a pas que des corps de voleurs, calcinés, mais aussi il y a des corps sans vie qu'on peut ramasser sur l'eau, dans la nature, ainsi de suite.
Cet autre aspect d'actualité dans l'Ituri, au moins 1000 chèvres sont décédées le mois dernier dans le territoire d'Arua à la suite d'une maladie déclarée en Ouganda, mais dont l'origine reste inconnue. Une perte énorme pour de nombreux éleveurs et des milliers d'habitants qui vivent des activités agro-pastorales dans la zone. L'inspection territoriale des vétérinaires sollicite l'intervention du gouvernement pour éradiquer cette maladie qui menace d'autres animaux domestiques. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Les localités de Kumuru, Mado, Ariwara Centre, Zaki, Aru Centre, Yuku et Laibwe sont les plus affectées par cette maladie d'origine inconnue déclarée le mois dernier vers Adibou à la frontière avec l'Ouganda. D'après les explications du médecin vétérinaire du territoire, cette épidémie serait venue de l'Ouganda voisin suite à l'importation des chèvres par certains habitants. Il ajoute que les symptômes de cette maladie sont la fièvre suivie d'une forte grippe, le larmoiement des yeux, des difficultés respiratoires ou encore une diarrhée liquide. L'inspection territoriale du service de l'élevage et de la pêche dresse un bilan provisoire des 1000 chèvres qui sont déjà décimées depuis le mois d'avril sur l'ensemble du territoire, ce qui représente une énorme perte pour l'économie locale où de nombreux habitants vivent des activités agro-pastorales dans la région, affirme le docteur Kamate Karubandika. Selon lui, les premiers échantillons sont déjà envoyés au laboratoire pour identifier cette maladie. Il demande aux éleveurs de référer des cas suspects au service des laboratoires pour éviter la propagation de cette maladie. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
En plus bref, à Kinshasa, parlons de ce SOS des habitants du quartier Mateba dans la commune des Limete. 5 ans après le lancement de la construction de l'avenue Mombele, la principale artère qui devrait désenclaver leur quartier, rien ne s'est fait. Aujourd'hui, cette route est de plus en plus impraticable, difficile pour les véhicules et même les motos de circuler, surtout en cette saison de pluie. Faute de canalisation, plusieurs parcelles sont également inondées le long de cette avenue. Les habitants de Mombele demandent au gouvernement provincial de relancer les travaux qui doivent continuer. Étienne Lissoumbou nous en dit plus.
L'avenue Mombele ressemble à un site oublié. L'herbe y pousse est verdoyante. L'eau y stagne, on y trouve même des jeunes arbustes. Ce sont des moellons, des engins abandonnés et des ponts des caniveaux inachevés qui témoignent de l'importance qu'aurait dû revêtir cette route si les travaux de construction avaient pu être amenés comme prévu au départ. Déçus, les habitants de l'avenue Mombele ne cessent de plaider pour une reprise des travaux. Ponde Ospi, chef du quartier Mateba, explique les péripéties de ces projets.
Les Chinois sont arrivés pour prendre des mesures et ils sont partis sans raison. L'avenue est restée indemne et les trucs que vous voyez, les moellons que vous voyez sont là depuis le début des travaux.
Nous souffrons, nous dit un habitant de cette avenue. Il explique leur calvaire depuis l'abandon des travaux.
Le calvaire est vraiment sincère. Ce n'est pas quelque chose. Vous voyez, vous n'avez pas fait la curiosité. Non, les herbes, vous voyez, qui habitent avec les gens, les moustiques, les rats. Tout cela, quand vous êtes ici, il y a des rats qui viennent regarder la fenêtre aussi.
Notez que l'avenue Mombele, une fois achevée, permettra de relier les communes de Limété et d'Ingaba.
Actualité internationale.
Alors que l'Europe célèbre le 80e anniversaire de son triomphe sur le fascisme et la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie se souvient d'un anniversaire plus sombre, les massacres de l'ère coloniale qui ont éclaté le même jour. Lors des cérémonies organisées à Guelma, Kerata et Sétif, les villes où les massacres ont eu lieu, les Algériens ont rendu hommage à ceux qui ont été tués. Dans un message adressé cette semaine, le président Abdelhamine Tebboune a qualifié l'événement de fierté nationale et de prélude à la lutte pour l'indépendance du pays après 132 ans de colonialisme français.
L'invité.
Notre invité est Dr Antoine Modia Owanjo, professeur d'université, gynécologue obstétricien, échographiste. Il revient sur la nécessité de la campagne de sensibilisation et des dépistages gratuits des maladies gynécologiques et aussi, entre autres, l'infertilité, le col de l'utérus. Il s'entretient avec Benjamin Moudoumbi.
Docteur Modia Owanjo, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle importance accordez-vous à cette activité de dépistage gratuit et de sensibilisation?
L'idée est partie du fait que dans nos cabinets, nous avons reçu beaucoup de cas de ces cancers du sein, cancer du col de l'utérus à des stades dépassés. Et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Ce sont des maladies qu'on peut prévenir, qu'on peut éviter. On s'est dit, mais c'est le moment de pouvoir arrêter les massacres, arriver vers la population pour leur dire que vous êtes capable vous-même de vous auto-dépister. Vous êtes capable vous-même de pouvoir vous sauver, c'est en faisant deux choses. En ce qui concerne les cancers du col, allez voir son médecin au moins une fois l'an. Par contre, pour ce qui concerne les cancers du sein, il suffit chaque matin de s'auto-palper.
Comment est-il possible pour un homme d'attraper les cancers
des
seins?
Mais parce qu'il a des seins. Ils sont petits, mais ce sont des seins. Ce sont le même type d'hormones qui font en sorte que ces cancers, lorsqu'il y a un déséquilibre, parce qu'il faut dire d'abord, pour la plupart de ces cancers, ce sont des cancers qui sont des cancers hormonodépendants. Ça signifie que l'homme et la femme produisent certains hormones, mais s'il n'y a pas d'équilibre, et parfois les gens pensent que les cancers du sein ne concernent que la femme. Et les cancers du sein attaquent au moins 0,5 à 1% d'hommes. Et ce sont des cancers virulents et foudroyants, et ça ne pardonne pas. C'est pour ça que le message n'est pas qu'adressé qu'aux femmes, mais aussi que les hommes que nous sommes, nous puissions de temps en temps jeter un coup d'œil sur nos seins. Donc c'est autopalper également comme font les femmes. Puis aussi insister sur le fait que le cancer du sein, c'est un cancer héréditaire familial. Et ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. Lorsque vous avez un membre de famille, que ce soit un homme, une femme qui a développé un cancer, il faut se considérer comme étant exposé et aller voir son médecin de manière régulière. Et pour parler des facteurs, ce sont des cancers évitables. En ce qui concerne les cancers du sein, par exemple, la femme elle-même peut poser le diagnostic en faisant ce qu'on appelle l'autopalpation. Les cancers du col, c'est les cancers qui tuent le plus dans nos milieux. Ces cancers-là ne devaient pas tuer. Pourquoi? Parce que il est reconnu aujourd'hui que c'est un cancer dont les lésions qui les précèdent sont transmises par un virus qu'on appelle papillomavirus. Et ces papillomavirus se transmettent sexuellement. Donc c'est une maladie sexuellement transmissible.
En parlant de col de l'utérus et de sang, quels sont les signes à ne pas négliger, docteur?
Le premier signe, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous puissiez avoir un nodule lorsque vous palpez les seins, que vous ayez l'impression que, en ce qui concerne la femme, que le mamelon est en train d'être rétracté, et que lorsque vous exprimez le sein et que vous ayez du liquide, mais ça peut être du sang. Et il faut, ça, ce sont les signes d'alerte, il faut aller voir son médecin. Évidemment, si vous avez de grosses boules avec des ulcérations, ça, c'est un peu très rare. Donc, il ne faut pas attendre ces signes-là pour pouvoir aller voir son médecin. En ce qui concerne le col, les cancers du col s'expriment par des métrorragies, on dit des saignements en dehors des règles. Ces saignements en dehors des règles, surtout après la ménopause, il ne faut pas attendre parce que le cancer cible à peu près 80% des femmes au-delà de 50 ans. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur la catégorie, sur la jeune génération, parce que nous avons rencontré des cancers du sein chez des filles de 17 ans, 20 ans, et qui les font. Maintenant, il faut aussi tenir compte de l'environnement dans lequel nous vivons, parce que l'alimentation joue un rôle là-dedans, la sédentarité, le fait qu'on ne bouge pas, l'obésité, tout ça, ce sont des facteurs, l'alcool et le tabagisme également. Donc, ceci, c'est pour dire que ces cancers-là sont des cancers évitables, comme je viens de dire, et s'ils sont pris en charge à temps, de manière précoce, ce sont des cancers qui sont guérissables.
Quelles sont les principales causes de l'infertilité chez la femme et l'homme?
Donc l'infertilité concerne la femme et l'homme dans un couple. Chez la femme, c'est surtout les organes de reproduction qui sont concernés, c'est les lésions au niveau des trompes, les lésions au niveau de l'utérus. Et lorsque l'ovaire ne fonctionne pas correctement, donc l'homme peut aussi avoir ces problèmes. Il y a des hommes qui naissent avec de malformations telles qu'ils ne sont pas capables de sécréter ou de fabriquer des spermatozoïdes.
Docteur Owanjo Modia, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie également et abondamment.
Fidèle auditeur de Radio Okapi, nous vous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition des journaux avec comme principale actualité l'Ademus Papa qui a été prononcé, c'est-à-dire nous avons un nouveau pape. Son nom c'est Robert Francis Prévost. Il est archevêque catholique américain, membre de l'ordre de Saint-Augustin. À présent, il sera appelé pape Léon XIV. Voilà qui met un terme à cette édition des journaux. Nous vous disons merci de nous avoir suivis.